sur RFI.
Radio France Internationale, 13h30 à Paris, il est midi et demi en temps universel. Afrique Midi, c'est avec vous, Nicolas Sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nemo en Pise, bonjour à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, l'entreprise Endeavour Mining annonce la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale à Tanda, dans l'est du pays. Production attendue, 11 tonnes d'or par an, capacité totale 150 tonnes. En mai dernier, une découverte d'ampleur similaire avait été annoncée dans l'ouest ivoirien. Serge Parfait-Dioman, expert en industrie minière, sera notre invité. La Namibie vote aujourd'hui pour des élections à fort enjeu. La candidate de la SWAPO au pouvoir depuis l'indépendance pourrait devenir la première femme présidente du pays, mais elle pourrait aussi être contrainte à un second tour inédit. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, placé sous mandat de dépôt à Alger en vertu de l'article qui réprime les atteintes à la sûreté de l'État, c'est son avocat qui l'annonce. Une arrestation et un placement en détention jugés inacceptables par Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française. Alors que le premier salon international des ressources extractives commence aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'entreprise Endeavour Mining annonce la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale à Tanda, dans l'est du pays. Le patron de cette multinationale l'a fait savoir hier lors d'un entretien avec le président Ouattara, Binta Diagne.
Selon le PDG du groupe Endeavour Mining, ce gisement produira 11 tonnes d'or par an. Il devrait nécessiter un investissement de 530 milliards de francs CFA. La société canadienne, qui exploite déjà deux sites aurifères dans l'ouest et le nord du pays, espère extraire le premier lingot d'or en 2028. Le secteur aurifère est en pleine expansion. Cette année, la Côte d'Ivoire a produit près de 55 tonnes d'or. Le pays a annoncé il y a quelques mois le démarrage du projet Koné dans le nord, considéré comme un gisement de rang majeur dans la sous-région, un site exploité par la société Montage Gold et qui devrait produire près de 155 tonnes d'or en 20 ans, la durée du projet. Toutes ces découvertes donnent une visibilité à la Côte d'Ivoire. Elles devront attirer d'autres investisseurs, affirme un expert du secteur, des investisseurs sensibles à la réforme prochaine du code minier, un texte qui date de 2014. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Mali, quatre employés de Barrick Gold inculpés et incarcérés dans l'attente de leur procès. C'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué cette compagnie canadienne qui est propriétaire avec l'État malien de l'un des plus importants complexes aurifères au monde, Serge Daniel.
Blanchiment de capitaux et atteinte aux biens publics sont les deux chefs d'inculpation retenus contre les quatre responsables locaux de la société canadienne qui exploite au Mali un complexe minier. Le groupe canadien Barrick Gold, de son côté, se contente de confirmer les arrestations de ses collaborateurs. Dans un communiqué, les Canadiens ajoutent « Les tentatives pour trouver une résolution mutuellement acceptable ont jusqu'à présent échoué. » À Bamako, en revanche, le ton monte. Un responsable du département des mines est plutôt très remonté. Je cite « Barrick Gold a des pratiques non orthodoxes. Il y a des impôts non payés, il y a d'autres taxes à percevoir. » Fin de citation. Une autre source proche du dossier confie « La base de discussion de la junte est de 320 milliards de francs CFA » aversé par l'entreprise. Fin de citation. Notre même interlocuteur explique le courroux des autorités maliennes par le refus de ses partenaires de respecter un récent accord conclu. Depuis l'an dernier, après un audit des contrats miniers réalisés, Bamako n'a jamais caché sa volonté de renégocier les accords existants avec les sociétés minières étrangères. Objectif, renflouer les caisses de l'État plutôt vides. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin en Namibie pour le premier tour de l'élection présidentielle. Près d'1 500 000 électeurs sont appelés à désigner le prochain chef d'État parmi 15 candidats, mais deux figures se démarquent. Netumbo Dantitiutwa, candidate du parti historique au pouvoir, la SWAPO, et Panduleini Itula, son principal adversaire, Christina Okello. Itula, ancien membre de la SWAPO, pourrait bien briser l'hégémonie de son second parti et le contraindre à un second tour.
Oui, Nicolas, un tournant historique se dessine en Namibie. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 7h ce matin, de longues files d'attente témoignent de l'engouement des Namibiens avec une forte présence de jeunes électeurs. Frustrés par un chômage record et une pauvreté endémique, ces jeunes rejettent le bilan de la SWAPO après 34 ans de règne. Beaucoup pourraient se tourner donc vers l'opposition, notamment Panduleni Itula, leader du parti de patriotes indépendants pour le changement. changement. Cet avocat et dentiste promet un avenir prospère pour la jeunesse et pourrait bien devenir le visage de l'alternance. Reste à savoir si Pandeleni Itula parviendra à rassembler les voix des 20 partis d'opposition, car l'opposition est divisée, qui rend presque inévitable un second tour. Celui-ci pourrait opposer Netumbo Nandi Daitwa, candidate à la SWAPO, et en quête d'un rôle historique comme première femme présidente de la Namibie, à Pandeleni Itula, leader de l'IPC. Ces élections sont aussi un test pour les anciens mouvements de libération d'Afrique australe, confrontés aux Bond Freeze, ces jeunes nés après l'indépendance, et qui ressentent aucune loyauté envers ces partis historiques. Une tendance déjà illustrée par les récents revers politiques au Botswana et en Afrique du Sud.
Le président congolais Félix Tshisekedi est dans la province du Tanganyika. Il doit assister à la conférence annuelle des gouverneurs qui commence ce mercredi à Kalemie, le chef-lieu de cette province de l'Est de la RDC. Polynésie dit, dès son arrivée, Félix Tshisekedi a prononcé un discours devant la population où il a une nouvelle fois évoqué une réforme de la Constitution avec un référendum à la clé.
Oui, c'est au peuple lui-même de s'exprimer, a déclaré en Lingala Félix Tshisekedi, concernant l'avenir de la Constitution. Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais laisser le libre débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le dernier mot reviendra au peuple, a conclu le président, qui met donc sur la table un possible référendum. C'est la troisième fois en un peu plus d'un mois que le président aborde le sujet dans un discours, à chaque fois lors d'un déplacement en province. Fin octobre, c'est à Kisangani dans la Tshopo qu'il avait évoqué une possible révision constitutionnelle. Mi-novembre, à Lubumbashi dans le Katanga, il avait clarifié sa position, expliquant que la question n'était pas celle d'un troisième mandat, mais que la constitution actuelle ne protégeait pas assez le pays. Et de nouveau, il est question de la réforme à Kalemie. En parallèle de ces discours, une commission doit se mettre en place début 2025 pour réfléchir aux différentes options, changements ou révisions. Mais avec ces dernières déclarations du président et celles des responsables de son parti, notamment Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, au micro de RFI mardi, il ne fait pas de doute que le camp au pouvoir penche de plus en plus pour un texte qui serait soumis à un référendum.
Polynésie dit en direct de Kinshasa est toujours autour de ce débat sur une réforme de la Constitution. Sachez que l'opposant Délie Sessanga a appelé ce matin à une manifestation dans les rues de Kinshasa pour protester contre le changement de texte. La RDC ou le Vatican annonce qu'un jeune homme assassiné en 2007 sera bientôt béatifié. Floribert Bwanachui Binkositi avait refusé de céder à la corruption en interdisant l'acheminement de riz avarié dans son pays en provenance du Rwanda. Il avait été tué en 2007. Pour le pape et le Vatican, sa figure est un exemple pour la jeunesse, Eric Senanque.
C'est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, qu'est né Floribert Bwanachui en 1981. C'est là aussi que ce jeune officier de contrôle des douanes a été assassiné en 2007, après avoir refusé d'acheminer des denrées alimentaires avariées. Pour le pape, Floribert Bwanachui est un exemple qui peut inspirer la jeunesse. En rencontrant les jeunes congolais dans le stade des martyrs de Kinshasa l'an dernier, François l'avait cité en exemple, rappelant son sens du sacrifice. En tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la saleté de la corruption, avait lancé le souverain pontife. Dans le décret publié lundi, la Congrégation pour les causes des saints du Vatican reconnaît son martyr et qu'il a été tué en haine de la foi, selon l'expression consacrée. Très engagé auprès des enfants des rues, Floribert Bwanachui était aussi pour la paix et la réconciliation dans son pays. Une école porte son nom dans un camp de réfugiés à Goma. La communauté catholique Saint-Egidio, dont il était membre, a salué avec joie la béatification prochaine du jeune laïc de Goma. Elle devrait avoir lieu l'année prochaine, durant l'année jubilaire, une année qui sera inaugurée la veille de Noël au Vatican par le pape François. Éric Sénanque, Rome, RFI.
En Centrafrique, le gouvernement s'exprime sur l'enquête menée par RFI et le consortium de presse Forbidden Stories sur les opérations de désinformation orchestrées par les paramilitaires russes du groupe Wagner dans le pays. Cette enquête documente la manière dont de fausses informations sont placées dans des médias et des fausses manifestations organisées. Alors que le porte-parole du gouvernement, Maxime Baloulou, n'avait pas répondu aux sollicitations du consortium avant publication, il a profité hier de son point de presse hebdomadaire pour partager son point de vue.
Je voudrais ici répondre au nom du gouvernement de la République centrafricaine suite à certaines allégations et les différents reportages soutenus par Radio France Internationale et certains médias occidentaux. Nous nous posons la question pour savoir qu'est-ce qu'on veut de la République centrafricaine. Nous connaissons les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Nous connaissons également la russophobie de ses partenaires occidentaux. Ça, c'est leur problème. C'est une machination qui est mise en place pour encore noircir notre pays. Parce que nous sommes dans une relation étroite avec la Russie. On cherche à la fois à nous affaiblir, puis en arrière-plan, on connaît ce qu'ils veulent faire. Mais je dis ici que le peuple centrafricain est debout et vigilant. Nous ne céderons pas à ces manipulations, nous ne céderons pas à cette cabale dont l'objectif premier, on le sait bien, c'est d'obtenir le départ de la Russie en Centrafrique.
Le ministre centrafricain de la Communication, Maxime Balalou, hier à Bangui, RFI rappelle pour sa part que même si elle est une radio publique, sa rédaction est indépendante de tout pouvoir politique. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été entendu par le parquet antiterroriste d'Alger et placé sous mandat de dépôt en vertu de l'article 87 bis du code pénal algérien qui réprime l'ensemble des atteintes à la sûreté de l'État. C'est en tout cas ce qu'a annoncé hier son avocat français, François Zimret. L'auteur a été arrêté mi-novembre à son arrivée à Alger. Une arrestation et un placement en détention qui sont aujourd'hui dénoncés par le chef de la diplomatie française. Inacceptable, a dit ce matin chez nos confrères de France Info, Jean-Noël Barraud.
Je suis choqué par cette inculpation. Et comme de très nombreux Françaises, de très nombreux Français qui connaissent et qui apprécient l'homme et son œuvre, je suis très ému parce que c'est un homme et une œuvre qui sont celles d'un écrivain engagé, d'un écrivain courageux qui fait honneur à ces deux pays, la France et l'Algérie. Rien dans les activités de Boualem Sansal ne permet d'accréditer les accusations qui lui valent aujourd'hui d'être emprisonné. Et la détention,
quel levier vous pouvez avoir ?
La détention d'un écrivain français sans fondement est tout simplement inacceptable. Alors dans l'immédiat, les services de l'État sont pleinement mobilisés à Alger comme à Paris pour suivre la situation de Boualem Sansal et lui permettre d'accéder à la protection consulaire qui est prévue par le droit. Sachez que jusqu'au plus haut de l'État, la situation de Boualem Sansal est suivie avec beaucoup d'attention, tant cette inculpation a provoqué une vive émotion.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, qui commence d'ailleurs aujourd'hui sa première visite sur le continent africain. Il est attendu ce soir au Tchad, à N'Djamena, avant de se rendre demain à Adré, à la frontière soudanaise, pour visiter un camp de réfugiés. Le ministre se rendra ensuite au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a effectué hier une visite officielle en Érythrée voisine. Il s'est entretenu avec le président Isaias Afewerki, l'un de ses soutiens régionaux dans sa guerre contre les paramilitaires FSR, Ouda Ibrahim.
L'Érythrée est engagée au Soudan aux côtés de l'armée régulière et c'est sur son territoire que s'entraînent des forces qui épaulent l'armée contre les forces de soutien rapide. Le ministère érythréen des Affaires étrangères a à plusieurs reprises dénoncé les crimes de FSR commis au Soudan depuis le début de la guerre. Ce pays reçoit également des milliers de réfugiés soudanais. Le général al-Burhan a donc exprimé sa reconnaissance pour ce rôle joué par Asmara. Il tient à consolider cette alliance qui lui permet en quelque sorte de contrer les alliés régionaux des FSR. Le moment de cette visite est également important. Il intervient quelques jours juste après la reprise par l'armée de Sinjar, capitale de l'état de Sennar, frontalier de l'Érythrée. Selon plusieurs observateurs, c'est un acquis stratégique qui va permettre à l'armée de reprendre des zones à l'est et au centre du Soudan pour avancer vers l'état d'Al Jazeera et resserrer le taux sur les paramilitaires.
Il est 13h44 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, nous irons au Ghana à l'approche des élections. Trois organismes de fact-checking s'associent pour garantir une information électorale fiable. Et puis les sports du football, la Coupe de la Confédération prend le relais de la Ligue des Champions aujourd'hui. Première journée des phases de poule. Le Zamalek du Caire, tenant du titre, est le premier à entrer en lice face aux Black Bulls du Mozambique. Le Ghana a moins de 2 semaines des élections générales. Le scrutin du 7 décembre décidera notamment du successeur du président Nana Akufo-Addo, arrivé au bout de ses 2 mandats. Et pour éviter que la campagne déjà tendue ne soit empoisonnée par de fausses informations, trois organismes de fact-checking ghanéens ont décidé de s'allier et de former une coalition pour aider à garantir une information électorale fiable, Victor Cariou.
Plus de 50 fact-checkers répartis dans l'ensemble du Ghana, en partenariat avec une centaine de médias qui traduisent les vérifications d'infos en langue locale. C'est ça, la Ghana Fact-Checking Coalition, une alliance plus que jamais nécessaire en 2024, selon Kwaku Krobea Asante, l'un des fondateurs de l'initiative.
La mésinformation et la désinformation augmentent. Les gens ont de plus en plus accès aux réseaux sociaux et aux logiciels de montage ainsi qu'à l'intelligence artificielle et à sa capacité à générer des contenus.
Outre les correspondants régionaux, des salles de crise médiatiques vont être installées du 4 au 11 décembre dans deux endroits, à Accra, la capitale, mais aussi à Tamale, l'une des plus grandes villes du nord du pays. Impératif pour être au plus près de l'action.
Pour la première fois, les deux principaux candidats viennent des régions du nord du Ghana. Nous avons vu comment la jeunesse là-bas réagit à la campagne qui peut être très tendue dans ces zones. Ces régions connaissent également de nombreux conflits de chefferie et des conflits ethniques.
Fact-Check Ghana, Dubawa et Ghana Fact espèrent ainsi prévenir la propagation virale de fausses nouvelles et donc empêcher les éventuelles violences qui peuvent en découler. En 2020, ce sont 8 personnes qui ont été tuées lors d'affrontements le jour de l'élection. Victor Cariou, Accra, RFI.
Les sports du football avec la première journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération. Elle commence aujourd'hui. Le Zamalek du Caire tenant du titre démarre en recevant les Black Bulls du Mozambique. Babacar Diarra en Afrique de l'Ouest, l'affiche se déroule au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où la SEC cherchera à se remettre dans la bonne direction face aux Sénégalais du Diarra.
Un an après leur quart de finale en Ligue des Champions, les Mimos redescendent d'un cran sur l'échelle du foot continental, conséquence d'un effectif purgé par les départs. La SEC n'est d'ailleurs que cinquième dans son championnat. Son entraîneur Julien Chevalier espère que cette nouvelle compétition donnera un second souffle aux jeunes effectifs.
Il y a eu énormément d'évolutions dans le groupe. Lors des phases préliminaires, j'avais parlé d'exploits de cette qualifiée parce que on sait qu'il y avait eu énormément de changements, très peu de repères avant d'entamer la compétition. Et la phase de championnat a démarré sans nous rassurer. Donc c'est normal qu'il y ait des altermoiements un petit peu, des moments de doute dans ce jeune effectif. Maintenant, il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui sont faites et on a l'impression qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça bascule du côté positif.
ASEC Mimosa Diaraf pour le compte du groupe C. Ça démarre à 16h temps universel. À la même heure, le stade malien reçoit les Sud-Africains de Stellenbosch dans un groupe B où la Renaissance de Berkane et son capitaine burkinabé Issoufou Dayo accueillent les Angolais de Lunda Soul.
On revient à présent sur les résultats d'hier en Ligue des Champions, cette fois avec la surprise venue du club congolais Maniema Union.
Les joueurs de Kindu ont ramené un 0-0 précieux d'Afrique du Sud où ils ont rendu fébrile les Mamelodi Sundowns, pourtant demi-finale de C1 l'an dernier. Forcément une bonne opération pour l'entraîneur de Maniema, Papi Kimoto.
Je suis très satisfait de ces résultats. On a respecté notre plan de jeu. Les jeunes gens ont été courageux aujourd'hui. Ils ont souffert ensemble. C'est un point qu'on a pris. Ça va nous servir de source de motivation pour essayer de préparer les prochains matchs contre Raja Kinshasa avec beaucoup de sérénité. Et nous, on joue sans pression. On va tout donner et voir. C'est à la fin qu'on va faire les comptes.
Pas d'exploit en revanche pour le stade d'Abidjan, mais une défaite 4-2, loin d'être humiliante au Caire face à l'Al Ahly, double tenant du titre. Alexandre Lafitte, coach du club ivoirien, analyse avec lucidité l'écart qui sépare son équipe des Égyptiens.
On a eu des séquences où on a eu la maîtrise du jeu. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu 3-4 grands temps forts où on touche le montant. Ça a été un grand match. On aurait pu mettre le troisième pour les faire douter. Malheureusement, face à une équipe aussi grande avec de telles individualités, ça n'a pas été le cas. Mais il faut être fier de ce que l'équipe a fait. Et à Abidjan, il faudra aller chercher les points.
Enfin, côté Djoliba, la perception était tout autre avec une gifle 4-0 reçue chez l'Espérance de Tunis. La semaine prochaine, les Maliens doivent réagir avec la visite à Bamako d'un autre adversaire coriace, les Égyptiens de Pyramides.
13h49 à Paris, Nemo en piste, les grands titres de ce mercredi 27 novembre.
Avec à la une l'entrée en vigueur cette nuit d'un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, un accord qui doit s'étaler sur 60 jours et qui prévoit le retrait des troupes israéliennes et du groupe chiite du sud du Liban. Des troupes de l'armée libanaise doivent y être déployées. Plus de réactions à l'international depuis cette annonce. Les États-Unis et la France qui ont mené les discussions évoquent une bonne nouvelle. Le Hamas, lui, se dit même prêt à une trêve à Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui, prévient que la durée de cet arrêt des combats dépendrait de ce qui se passe au Liban, et assure qu'il répondra avec force à toute violation. En bref, les députés européens qui ont validé la nomination de la nouvelle Commission européenne. Et puis du football, toujours en Europe. Après les défaites du PSG et de Brest hier, Monaco et Lille, côté français, affrontent respectivement le Benfica Lisbonne et Bologne. Le choc de cette soirée européenne, Liverpool-Real Madrid, coup d'envoi, 20h, temps universel. Un important gisement d'or découvert à Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a appris hier à l'issue d'entretiens entre le président Alassane Ouattara et le PDG d'Endeavour Mining, qui annonce attendre 11 tonnes d'or par an et une capacité totale de 150 tonnes. Serge Parfait-Dioman, expert international en industrie pétrolière, énergie et mine, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Serge Parfait-Dioman.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, on parle à Tanda d'un gisement d'or de classe mondiale. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que ça veut dire, un gisement de classe mondiale ?
Un gisement de classe mondiale, c'est un gisement qui se spécifie en deux classes. Déjà par la quantité d'or extractible qui dépasse les 100 tonnes de réserve, donc ça c'est le cas. Et ensuite, durée, c'est-à-dire c'est un gisement qui peut aller au-delà de 10 ans. D'exploitation, dans une façon caricaturale et assez précise d'ailleurs. C'est comme ça que l'on spécifie un gisement de classe mondiale.
Alors, on parle là d'un gisement dont la production serait similaire à celle du gisement aurifère du district de Woroba, dont la découverte avait été annoncée en mai dernier par le groupe canadien Montage Gold, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce sont de gros gisements en comparaison avec ce qu'on trouve dans les pays voisins et dans le reste du monde.
Exact. Ça, c'est dû en fait aux nouvelles technologies aujourd'hui qui sont utilisées en diagraphie et en technique de détection des signaux envoyés par les traces d'or qu'on a. Les techniques aujourd'hui sont des techniques assez avancées qui utilisent l'intelligence artificielle pour l'imagerie de la diagraphie géologique. Et en ce moment, on ne perd pas le temps à aller vers des gisements où il existe des traces. On va vraiment vers les gisements où se trouve le filon d'or. Les entreprises qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont celles qui sont dans le top mondial aujourd'hui des entreprises spécialistes en activité aurifère.
Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire attend de son secteur aurifère et de ses découvertes annoncées qui se multiplient ?
La Côte d'Ivoire attend beaucoup de retombées positives. La première retombée, évidemment, c'est la visibilité de son activité minière aurifère. Et en deuxième lieu, son attractivité aurifère, parce que plus on découvre des filons d'or, pas des traces d'or comme ailleurs, mais des filons d'or, ça devient comme un produit d'appel qui fait venir d'autres investisseurs. Et en troisième et dernier lieu, ce sont des retombées économiques évidentes pour l'État de Côte d'Ivoire qui va se traduire en développement socio-économique et humain pour les populations et en termes d'employabilité également.
Alors on parle là d'exploitation industrielle. À quoi ressemble le secteur de l'or en Côte d'Ivoire ? Est-il majoritairement artisanal ou industriel ?
À l'origine, l'or en Afrique et un peu partout, même aux États-Unis où ça a commencé, l'or était en exploitation traditionnelle. Aujourd'hui, vu les risques environnementaux pour éviter la pollution, vu les risques humains pour éviter les éboulements de puits sur les personnes, divers autres risques, aujourd'hui, on part sur des exploitations industrielles par nécessité environnementale, par nécessité industrielle et par nécessité sécuritaire. Et là, dans ce cadre, on arrive à faire plus de production, on arrive à optimiser la sécurité, on arrive à optimiser les moyens de production.
L'exploitation industrielle n'est toutefois pas exempte de risques. Hein. On a eu deux incidents industriels en juillet dernier à la mine d'Iti, qui est exploitée elle aussi par Endeavour, des pollutions de cours d'eau. Les législations et contraintes imposées aux grands groupes sont-elles suffisantes en Côte d'Ivoire ?
Oui, elles sont suffisantes. Le cas de la mine Ity, il ne s'agit pas d'un éboulement. Mais c'est une mine qui suit un cycle de maintenance. Donc ça, c'est un accident. Les accidents sont des phénomènes non voulus qui peuvent arriver et qui sont pris en compte dans l'exploitation d'une activité aurifère. La raison pour laquelle, suite à ce qui est arrivé au niveau de la mine de Ity, l'incident a été rapidement circonscrit et n'a pas débouché sur un accident en tant que tel. Nous sommes restés au niveau d'un presque accident parce que la fissure a été très bien maîtrisée par l'équipe de Polumar qui existe au niveau de la Côte d'Ivoire et par également les équipes de sécurité de l'exploitation qui ont conjugué leurs efforts pour pouvoir circonscrire uniquement dans l'environnement immédiat.
Le code minier en vigueur en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle remonte à 2014. Un nouveau code minier est en préparation. Où en est-on ?
Concernant le nouveau code minier en préparation, il avance très bien. Il avance très bien et la promulgation de sa formulation finale est des prérogatives de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre en personne. Ce n'est pas une information secrète, hein, c'est juste une information sensible. Et dans le cas d'information sensible, c'est une information qui est donnée par l'autorité de tutelle.
Qu'est-ce qu'on sait de son contenu ? On dit qu'il prévoyait la fin des exonérations fiscales pour les industries minières. Qu'est-ce qu'on en sait ?
Ce n'est pas dit en tant que tel. Aujourd'hui, les rumeurs que nous avons entendues, ce sont des rumeurs de personnes effectivement qui prêchent le faux pour avoir le vrai en fait. L'information précise, claire concernant le code minier, c'est cette information qui sera donnée par l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre Mamadou Sangafoua, lui-même en personne, quand le code sera prêt, lu par tout le monde, entériné et prêt à être diffusé. Sinon, cette information concernant l'exonération fiscale, bien sûr que c'est un sujet qui fait partie des points énoncés dans le nouveau code minier, mais la précise qui satisfait à tout le monde, c'est celle-là qui sera donnée par le ministre très bientôt.
Merci Serge Parfait-Dioman. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Elles sont très prisées en Centrafrique où on les consomme grillées avec du sel, des oignons et du bouillon. Les chenilles sont bon marché et réputées à bonne valeur nutritive, mais elles sont menacées de disparition. En cause, la déforestation anarchique, les arbres où ces chenilles font leur foyer tombent, les insectes se raréfient. Les défenseurs de l'environnement se sont emparés du problème. Ils mènent des campagnes de sensibilisation auprès des communautés et des sociétés forestières pour préserver les forêts et encourager le reboisement. Reportage Rolf-Steph Domialeux.
Armée de machettes et quelques torches, une équipe de jeunes ramasseurs de chenilles poursuit un groupe de coupeurs clandestins de bois. Dans cette forêt dense et profonde, l'équipe entend de loin des bruits de machines et de machettes. Crépin et ramasseur de chenilles.
Parfois, en faisant le tour, nous croisons des trafiquants qui coupent les arbres de manière anarchique. Nous leur demandons de préserver ces arbres, surtout ceux qui produisent les chenilles. Mais ils s'en moquent parce que nous ne sommes pas les autorités. Désormais, la saison des chenilles ne dure qu'un mois au lieu de trois.
À leur arrivée, les exploitants illégaux ont pris fuite, mais cet espace d'environ 2 hectares est complètement déboisé. À quelques jets de pierre de là, nous croisons Christévi, une vendeuse de chenilles.
Cette année, les chenilles sont apparues en retard et en quantité insuffisante. J'ai déjà parcouru une centaine de kilomètres, mais c'est une peine perdue.
Cette rareté se fait également sentir dans le panier de la ménagère. Les consommateurs comme Miguel déplorent la quantité et le prix des chenilles.
Avant, nous achetions un tas de chenilles à 100 francs CFA. Maintenant, le même tas coûte 500 francs CFA. Si on ne fait pas attention, d'ici 5 ans, il n'y aura plus de chenilles et ce sera une grande perte.
Pour sauver la situation, l'Institut centrafricain de recherche agronomique ICRA a mis en place un vaste projet de reboisement des zones dévastées. Rolf-Steph Domialeux, de retour de Mbata, RFI.
Et c'est dans les forêts de Centrafrique que se termine cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Et merci à vous Nicolas Sûr. On vous retrouve dès demain dans Afrique Midi RFI, 13h59 ici à Paris.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
Les sages-femmes, savoir et compétences au service de la santé des femmes.
Vendredi.
Les premiers jours de bébé dans notre émission Questions de femmes.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Tous les dimanches à 14h10 TU, Bonne pulsation du monde, c'est une sélection de chansons qui font l'actualité sur les 5 continents. Et vous, d'Abidjan à Caracas, de Paris à Shanghai, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Laissez-nous un vocal sur le WhatsApp de l'émission pour tout nous raconter au 00 33 6 19 36 21 71. Je veux tout savoir.
BPM.